Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, Cannes, c'est fini. Un palmarès qui fait des primés et déprimés. C'est ce que titrait Libération. Autant dire que la presse française n'est pas vraiment satisfaite de ce palmarès. Il n'en sera qu'un tout petit peu question dans cette émission, car nous n'avons quasiment rien vécu cette année. Marine est restée quelques jours, le temps de poireauter devant les salles en raison d'une billetterie défaillante. Toi, Manu, tu n'y étais pas, mais tu as vu quand même des films qui viennent de Cannes. L'un de l'an dernier et puis un de cette année, très attendu.
Donc, j'ai vu le dernier film de Cronenberg, Le Crime du Futur, et puis un film qui était présenté l'an dernier, je crois que c'était à la quinzaine des réalisateurs, Clara Sola.
Quant à Marine, elle ne revient pas avec un film de Cannes, mais Broadway, premier film d'un jeune réalisateur grec, et puis Guillaume, il va nous parler de Firestarter, le dernier film Blumhouse. C'est Cinérama qui débute avec le Festival de Cannes.
This is Cinérama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
C'est un peu la tradition dans cette émission, que nous soyons à Cannes ou que nous ne soyons pas à Cannes, nous regardons la cérémonie de clôture et on essaye de la résumer eh bien, en un court montage sonore. Celui-ci fait un peu plus de 5 minutes. Si vous n'étiez pas devant votre écran, si vous n'avez rien lu, eh bien, vous avez le condensé du palmarès. C'est maintenant.
Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le jury. Le réalisateur, producteur et scénariste iranien, Asghar Farhadi. L'actrice, productrice indienne, Deepika Padu. Le réalisateur et scénariste américain, Jeff Nichols. L'actrice, productrice, scénariste et réalisatrice anglo-américaine, Rebecca Hall. Le réalisateur et scénariste norvégien, Joachim Trier. Le réalisateur, scénariste, acteur et producteur français, Latchi. L'actrice et productrice suédoise, Noomi Rapace. L'actrice et réalisatrice italienne, Yasmine Prink. Il ne manque que votre président, Vincent Lindon.
Pendant ces jours trop courts, j'ai été heureux. Follement heureux. Enchanté jusqu'à l'indécence. Permettez-moi un mot d'André Gide. L'art vit de contraintes et meurt de liberté.
Nous allons donc pouvoir commencer, Monsieur Lindon. Par quel prix allons-nous débuter?
Pour annoncer le prix d'interprétation féminine, Noomi Rapace.
Best Actress.
Donc, le prix d'interprétation féminine.
Zaha Amir Ibrahim.
Dans Holy Spider, Les Nuits de Machad, réalisé par Ali Abbasi.
Merci beaucoup.
And the award for best screenplay.
Le prix du scénario est attribué à Tariq Saleh pour A Boy from Heaven.
Je vais dédier ce prix aux jeunes réalisateurs en Égypte pour qu'ils élèvent la voix et qu'ils comptent leurs histoires.
Le prix d'interprétation masculine va être annoncé par Jeff Nichols.
The award for best actor.
Le prix d'interprétation masculine est attribué à Song Kang-ho.
Je remercie vraiment le très grand auteur qui est Monsieur Kore-eda, notre réalisateur.
Pour le prix du jury, Jasmine Trinca va l'annoncer.
Le prix du jury est attribué en ex aequo à Les Otto Montagne de Charlotte van der Mersch et Felix van Groningen et I.O. de Jerzy Skolimowski.
Je voudrais remercier mes ânes.
Just a flash of light in the endless night, and it's done.
On a voulu réaliser un film qui parle de la vie en toute sa fragilité, mais aussi dans toute sa force.
Le prix du 75e est attribué à Jean-Pierre et Luc Dardenne pour Torino de guitare.
J'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que t'arrêtes l'école.
J'arrêterai pas. Je ferai ça vendredi soir, après le travail pour Bétim.
Quand on est deux, on ne sait jamais qui va commencer. Donc, je vais commencer.
Pour annoncer le prix de la mise en scène, Rebecca Hall.
And the award for mise en scène goes to
le prix de la mise en scène
Park Chan-wook for Decision to Leave.
For Decision to Leave.
Avec la pandémie, les frontières entre les pays se sont élevées.
Et nous avons décidé de faire un grand prix ex aequo.
And the award goes to Close by Lucas Donk.
Merci, à Close de Lucas Donk.
Start the new by Ken Denny.
I don't care what you think of me. I'm just here to offer you the best deal that I could make across two borders. It's real and it's straight.
C'est pas si facile de faire un film, on le sait tous ici.
Je veux dormir chez Rémi ce soir.
Tu reviens chez nous un jour ?
Peut-être.
Et par-dessus tout, merci à ma mère, maman, de m'avoir montré l'impact incroyable que le cinéma pouvait avoir. Je suis ici grâce à toi, parce que tu m'as aidé à trouver ma voie pour me connecter aux autres, au travers de films et d'histoires.
Et tout le jury, on a été extrêmement choqués par ce film. La Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle of Sadness. Ruben Östlund.
Can you relax your Triangle of Sadness?
Mais en commençant ce film, nous n'avions qu'un but, vraiment, vraiment essayer de faire un film qui intéresse le public et qui le fasse réfléchir avec provocation. Nous voulions un loisir, nous voulions que le public se pose des questions et nous voulions qu'après la projection, le public ait quelque chose à parler.
Voilà, c'était le résumé de la cérémonie du dernier festival de Cannes, festival 2022, qui a récompensé le Suédois Ruben Östlund pour Triangle of Sadness, qui a été traduit en français par Sans Filtre. À noter que le réalisateur suédois avait déjà remporté la Palme d'Or de Square, et quand il l'avait remporté, cette Palme d'Or, ça n'avait pas davantage plu à la presse française, qui n'aime pas tellement ce réalisateur, alors que moi, j'avoue que c'était un très grand moment d'avoir vu The Square, notamment à Cannes, j'avais senti qu'il s'était passé vraiment quelque chose dans cette salle cannoise.
La colère, elle peut descendre aussi un petit peu. Hein. Généralement, quand des films font un peu scandale, comme ils sortent 3-4 mois après, les avis sont beaucoup moins tranchés en général.
En tout cas, toi, tu as vu le dernier Cronenberg qui revient avec une obsession, sa grande obsession pour le corps, avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart. C'est Les Crimes du Futur. En compétition à Cannes, il n'a rien remporté.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
8 ans après le remarquable Maps to the Star, satire décapante d'Hollywood dans un esprit assez méchant, proche du cinéma de Robert Aldrich, David Cronenberg revient de façon inespérée au cinéma. Entre-temps, il aura écrit un roman, consumé, et surtout, dans une perspective moins joyeuse, accompagné sa femme en fin de vie suite à un cancer. À près de 80 ans, retrouver l'auteur de La Mouche aussi libre et inspiré fait du bien. Crime of the Future est loin d'être son film le plus parfait et maîtrisé, péchant parfois par une sorte de commentaire bavard de son propre univers, mais c'est une œuvre somme, bouillonnante et complexe, désespérée et drôle, qui pose une multitude de questions sur le devenir de l'homme sans jamais avoir l'arrogance d'y répondre. Les ardents défenseurs du cinéaste se trouveront en terrain conquis, avec autant de chances d'être à la fois séduits et déçus par cet objet familier et singulier, mortifère et vivant, qui compile, sans forcément se répéter, la veine SF du cinéaste de Crime of the Future, justement, qui était son second film de fin d'études, a existé en passant par Vidéodrome.
La chirurgie, c'est sexuel, hein ?
Ah oui.
Vous le savez très bien. C'est le nouvel acte sexuel.
Il doit y avoir un nouvel acte sexuel.
Oui. Oui, il est grand temps.
Le récit se déroule à une époque indéfinie, bien qu'il s'agisse probablement du futur, et dans un lieu non précis, bien que les plus attentifs reconnaîtront l'architecture et le paysage de la Grèce, qui a sans doute son importance, mais il faudrait développer davantage. L'espèce humaine, contrainte de s'adapter à un environnement de synthèse, est l'objet de mutations corporelles nouvelles. Dans ce cadre, Saul Tenner, célèbre artiste-performeur, semble être le seul à souffrir physiquement. Aidé de son assistante amante, Caprice, il met en scène la métamorphose de ses organes, Cannes dans des spectacles avant-gardistes. Cette transformation, surveillée de près par le bureau du Registre national des organes, nerf philosophique un peu du métrage, hein, est perçue par certains comme une bénédiction et par d'autres comme une perte. L'humanité doit-elle continuer à s'autodétruire, fuir les changements de l'écosystème tout en célébrant l'art du corps mutant, ou doit-elle accepter l'ultime changement intérieur qui lui permettra de survivre ?
Franchement, je crois que j'adorerais me retrouver dans votre module, Sark. Avec vous, aux manettes.
Ça tomberait automatiquement dans la catégorie de... la catégorie de la Brigade des Mœurs.
Ouais, mais c'est mon domaine.
Dans ce cas d'une forme d'anticipation un peu sous cloche, étonnamment, quelque chose qui est vraiment très étonnant, c'est que ce n'est absolument pas une dystopie, on est vraiment ailleurs, ne cédant jamais au bric-à-brac de l'ASF traditionnelle et ses rêves futuristes. Crime of the Future construit et construit comme un polar nébuleux, faisant apparaître et disparaître des personnages, est à la fois un grand film politique sur nos choix à venir et aussi un autoportrait touchant et ironique d'un artiste vieillissant à travers le personnage de Viggo Mortensen, impressionnant plus que jamais l'alter ego du cinéaste lui-même, fasciné depuis longtemps d'ailleurs par le body art et les organes. Dans Faux-Semblant, hein, si on se rappelle, un des frères jumeaux disait qu'on devrait organiser des concours de beauté des organes. Alors c'est chose faite dans Crime of the Future, peinture crépusculaire et mélancolique d'un futur qui n'en est pas vraiment un, baignant dans une superbe photo aux tonalités ocre et un décor en ruine splendide proche d'un post-nuke fauché. Le film se clôt par un plan final magnifique où surgit brusquement une émotion que l'on n'attendait pas. Loin des clichés sur sa fausse froideur clinique, le cinéma du Canadien se révèle, et ce n'est pas nouveau, hein, il suffit de creuser et voir et revoir les films comme celui d'un grand romantique des temps modernes qui ne cède jamais à la facilité. Et à ceux qui voudraient voir là une œuvre testamentaire, puisque c'est ce qu'on a entendu un peu partout, alors détrompez-vous, hein, David Cronenberg a depuis enchaîné sur un nouveau long métrage.
Et peut-être avec Viggo Mortensen, dont c'était la quatrième apparition dans un film de David Cronenberg. À noter que pendant le Festival de Cannes, ils étaient conviés à la conférence de presse, hein, pour parler des Crimes du Futur, le film, et ils se sont montrés vraiment très proches, ils se sont considérés comme des amis, ils sont liés.
Et puis là, c'est le cas typique du film qui a eu un succès d'estime, qui n'a pas accroché plus que ça la presse et le public, mais qui, à mon avis, dans quelques années, va prendre en ampleur.
On y reviendra, comme on dit. Et on va écouter le réalisateur canadien David Cronenberg, donc, qui était invité au Festival de Cannes.
Le temps est venu d'arrêter de voir. Le temps est venu d'écouter.
Ce n'est pas que j'ai un calendrier en tête dans ma filmographie. Chaque film est une identité indépendante des autres. Et je sais que dans Crimes du Futur, vous allez voir des inspirations venant de Vidéodrome. Mais lorsque j'écris un film, je n'y pense pas. Je sais simplement qu'il y aura des liens entre tous ces films parce que ça vient de mon système nerveux. Mais lorsque je tourne ou prépare un film, je perçois ce film comme une entité indépendante.
Un nouveau monde se dévoile.
Les émotions vous font peur ?
La chirurgie, c'est le nouveau sexe.
Il s'éloigne à grands pas de l'humanité.
Ce sera une révélation.
Mon film traite de façon non politique de la question de la propriété de notre corps. On parlait tout à l'heure d'esclavage. Je suis le propriétaire de Viggo. Mais à part ça, j'ai peut-être écrit tout cela il y a 20 ans, mais on peut ressentir qu'il y a un côté comique derrière tout cela. Cette question de la propriété oppressante et du contrôle oppressant, c'est permanent dans l'histoire. Il y a toujours un gouvernement ou quelqu'un dans le monde qui veut contrôler sa population. Et ceci signifie que le corps est une réalité. Qu'est-ce qu'on contrôle ? Eh bien, on contrôle le corps des gens, c'est-à-dire ce que cela inclut, le cerveau, l'expression, la parole. Au Canada, je dois dire, et je l'ai déjà dit récemment, nous estimons que tout le monde aux États-Unis est complètement cinglé. Nous pensons que les Américains sont devenus complètement cinglés. Et on ne peut pas croire que les élus américains s'expriment comme ils le font.
overtly political.
Ce film n'est pas trop politique, mais
in that it is, it
de mon point de vue, ce film est une expression de culture, du contexte, de l'intellect, d'un langage spécifique, et dans ce sens-là, c'est un film politique.
Ce n'est pas très légal.
Encore une fois, je dois insister sur le fait que le corps est une réalité. Et ce qu'on filme le plus en tant que réalisateur, c'est le corps humain. C'est ce que je montre pratiquement à chaque prise. C'est là-dessus que l'on travaille en tant que réalisateur. On discute de la condition humaine en traitant du corps humain. Il n'y a rien de plus intime qu'un gros plan. Donc tous mes films sont extraordinairement intimes. Ce qu'en pense le public de ces affaires d'intimité, ça, c'est l'affaire du public, ce n'est pas la mienne. Nous avons là des acteurs merveilleux qui n'ont pas peur, ils n'ont pas peur de ce qu'ils font, et c'est ce que l'on souhaite comme réalisateur. Est-ce que ce que l'on souhaite comme réalisateur, c'est ce que l'on demande justement aux acteurs, c'est une intimité incroyable.
Vous vous sentez mal ?
C'était David Cronenberg, présent lors du dernier Festival de Cannes, puisque son film « Les crimes du futur » était en compétition. Il est en salle depuis le 25 mai. Réjouissant, intelligent, terriblement vivant, c'est ce qu'a pensé Marine du film Broadway, premier film de Christos Massalas.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
À Athènes, Nelly est une jeune danseuse en rupture familiale qui a, comme elle le dit elle-même, la fâcheuse tendance à s'amouracher d'hommes peu fréquentables qui voudraient la protéger. La voici donc sous la coupe d'un malfrat de deux fois son âge qui l'emmène vivre à Broadway, alors non pas le célèbre quartier new-yorkais, hein, mais un vieux quartier de la ville, anciennement centre culturel, aujourd'hui désaffecté. Là, elle n'est plus danseuse de bar à striptease, mais peut laisser libre cours à son art, entre guillemets, en empruntant les tenues de théâtre laissées à l'abandon afin de danser devant les badauds pendant que les pickpockets, qui forment désormais sa nouvelle famille, leur font les poches. Un jour, ils prennent sous leurs ailes déjà bancales un nouveau venu, un mystérieux jeune homme qui doit changer de visage pour ne pas risquer d'être exécuté par la mafia locale. Qu'à cela ne tienne, la bande de travestis en femmes, et ils forment désormais avec Nelly un duo de danseurs androgynes qui hypnotisent d'autant plus les passants jusqu'à ce que leur duo de danse ne se transforme en idylle imprévue. C'est un premier film de Christos Massalas, un jeune réalisateur grec remarqué pour ses courts-métrages, dont le dernier, Copa Loca, avait été présenté à Cannes et aux Oscars. Un premier long qui pointe du doigt derrière cette histoire flamboyante de délinquants au grand cœur, la dégradation urbaine et le délitement des vies humaines dans un pays en crise. Dans Broadway, tout est très théâtral, car après tout, life is a cabaret. Les pickpockets traqués par la police se cachent en pleine lumière, comme ils le disent. Tout le monde est habillé en costume, maquillé, toute action est dansée. Il y a une réflexion assez libre, assez ludique également, autour de l'androgynie, de la confusion des genres. Le personnage de Jonas, qui se travestit en Barbara, étant parfois appelé « il », parfois « il » avec un « s », parfois « elle », de quoi donner des sueurs froides à Jean-Michel Blanquer. Car finalement, ici, eh bien, tout le monde joue un rôle pour s'en sortir. Il y a quelque chose d'Almodovar dans cette vision joyeuse de la marginalité qui rappelle à la fois sa période foutraque des années 80 et sa période très mélodramatique des années 90, appuyée par la musique de Gabriel Yared, faite de violons très vibrants, qui rappelle celle du compositeur Hiroyuki Sakamoto qui a accompagné « Tout sur ma mère » et « Parle avec elle ». La ville de Athènes qui intéresse ici le réalisateur est celle des laissés pour compte, des débrouillards, des gens dans l'illégalité. Et d'ailleurs, nous verrons rarement d'autres personnages que ceux de la petite bande. Nous ne sortirons qu'assez peu du théâtre dans lequel ils se retranchent. C'est ainsi que Christos Massalas traite la terrible crise qui a gangréné la Grèce jusqu'à aujourd'hui encore, avec une légèreté salvatrice et en s'attachant à des personnages qui dansent leur vie tout en sniffant de l'essence. On pense bien sûr à Victor Victoria de Blake Edwards, avec cette idée du travestissement pour échapper au danger et du jeu sur les genres. Tout cela twisté par beaucoup de modernité et porté par les jeunes comédiens Elsa Lukaku et Foivos Papadopoulos qui sont incandescents. Broadway est un excellent premier film, réjouissant, intelligent, terriblement vivant. L'une des très belles découvertes de ce mois de juin.
Broadway est en salle depuis le 1er juin. L'adolescente Charlie a des pouvoirs. Une agence veut mettre la main dessus, mais elle ne se laissera pas faire. Firestarter de Kev Thomas. C'est Guillaume qui nous en parle.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Papa.
Qu'est-ce qu'il y a, ma puce?
Je sens un truc bizarre.
Incroyable Stephen King. On pourrait se dire que le roi de l'horreur a fait son temps, témoignerait d'une époque désormais révolue, mais plus ces années passent et plus l'empreinte indélébile qu'il a apposée dans la culture populaire ne cesse de s'étendre. Alors, on parle quand même désormais de quasiment 50 années d'adaptation de ses écrits, ce qui en fait probablement l'auteur le plus adapté de son vivant après un égal succès et intérêt du public. Rappelons que le pas terrible premier volet de ça, sorti en 2017, est déjà seconde adaptation de son roman cultissime, cassa tous les records de fréquentation et de rentabilité pour un film d'horreur classé R ou interdit aux moins de 16 ans chez nous. Notre époque, qui tend plus que jamais à se vautrer dans la nostalgie et à rejouer les heures de gloire de l'enfance des quarantenaires, cinquantenaires, pour la plus grande joie des jeunes qui ont du coup l'impression de revivre une époque qu'ils n'ont pas connue, est aussi bien évidemment propice au maintien tout en haut du podium de celui qui fut particulièrement prisé par le cinéma fantastique et horrifique des années 80. Voilà donc à que ressort le récit de Firestarter, un roman de 1980 traduit par le nom de Charlie en France et qui avait déjà connu une adaptation en 1984 réalisée par Mark Lester, éminent réalisateur de Commando, sous la houlette du producteur Dino De Laurentiis qui, au moment des faits, avait racheté les droits d'adaptation de nombreux écrits de King et qui les faisait s'enchaîner sur les écrans. Alors, après l'oubliable version télévisée de 2002 qui avait quand même Malcolm McDowell et Dennis Hopper à son générique, que nous ouvre cette cuvée 2022, cette fois-ci produite par l'incontournable Blumhouse.
Charlie ?
S'ils l'attrapent, ils vont la mettre en cage.
Charlie ?
Elle sera leur cobaye. On ne la reverra plus jamais.
Qui veut m'attraper ?
Ce qui est amusant avec ce nouveau Firestarter, c'est que cette production est quasiment tout autant une affaire de famille en interne que ne l'était celle chaperonnée par Dino De Laurentiis en 1984. Et vu qu'on parle d'un film qui traite d'une famille, c'est forcément assez cocasse. Ici, l'inévitable Blumhouse fait revenir Case Thomas, le réalisateur de l'intéressant mais peu concluant The Vigil, qu'ils avaient sorti en 2020. Revient aussi John Carpenter, accompagné de son fils Cody et de Daniel Davis à la musique. Alors, outre le fait qu'il est intéressant que Carpenter semble s'éclater dans son nouveau rôle de rockstar, et qu'il avait signé avec les deux mêmes compères les BO des deux derniers Halloween, aussi pour Blumhouse, il a rappelé le fait que Big John aurait dû réaliser la version de 1984 avant que l'échec de The Thing ne convainque les producteurs d'Universal de lui retirer le projet des mains. Amusant, en sachant que l'année d'avant, il avait déjà signé une adaptation de Stephen King avec l'excellente Christine. Firestarter semble donc lancé sous de bonnes étoiles et ne déçoit pas dans sa première partie. Collant assez fidèlement au roman de King et sachant se réapproprier ses thématiques humanistes, le film nous expose la difficile histoire d'Andy et Vicky qui essaient d'élever leur fille Charlie alors qu'ils fuient une agence fédérale qui voudrait mettre la main sur ce qu'ils ont de plus cher. Dans le passé, Andy et Vicky ont été soumis à des tests de cette même agence qui cherchait à développer des facultés extraordinaires comme la télékinésie sur l'être humain. Et si cela a partiellement réussi, la vraie réussite fut surtout cristallisée en la naissance de Charlie, une enfant au pouvoir bien plus puissant que ceux de ses parents et s'exprimant surtout du côté de la pyrokinésie. Sachant le destin funeste qui les attend, Andy et Vicky tentent désormais de faire profit bas tout en devant faire face à une jeune fille qui entre dans l'adolescence, âge ingrat et de rébellion s'il en est, et qui a de plus en plus de mal à contenir sa peur et sa rage face aux problèmes de la vie. Le problème chez Charlie, c'est que la non-maîtrise de ses pouvoirs peuvent amener à des catastrophes difficilement dissimulables, et c'est bien sûr ce qui va arriver à la suite d'un harcèlement de la jeune fille à l'école. Alerté, l'agence retrouve la trace de la famille de fugitifs et dépêche un agent spécial, Rainbird, qui va les traquer. S'ensuit une fuite en avant, quelque peu perdue d'avance, mais qui va voir Charlie s'emparer de son don de la manière la plus sanglante et tragique qui soit.
Elle a de vrais super pouvoirs.
Tu dois apprendre à t'en servir. Tu ne dois pas le subir. C'est toi qui décides. C'est ton seul moyen de le contrôler.
Je vais faire de mal à personne.
mais je crois que j'aime ça.
Hélas, hein, tout ce que cette bonne première partie expose s'écroule malheureusement dans un dernier acte totalement expédié qui a tout du renoncement. Alors, c'est peut-être dû au fait que le tournage a pâti des restrictions drastiques imposées à cause du Covid, ou alors que Casey Thomas réitère l'ennui progressif qui gangrenait déjà The Vigil. Alors, il n'empêche que ce Firestarter ne se relève pas de ce faux pas. On était pourtant arrivé à passer le jeu inexpressif de Zac Efron, quand bien même son personnage doit faire face à une perte éminemment tragique. Et on avait pris soin de ne pas canoniser le film de 1984 en comparaison, car lui aussi comportait son lot de défauts non négligeables. Il n'empêche que l'ampleur du Firestarter d'origine écrase en termes de spectaculaire la nouvelle adaptation, même si cette dernière était arrivée à apporter un fond extrêmement intéressant au personnage de Rainbird, faisant presque oublier la composition de George C. Scott en 1984. En l'état, malgré le goût d'inachevé, voire de tronqué à la hache déplaisant, Firestarter est assez agréable à suivre, à défaut de lui assurer une quelconque vision ultérieure. Ce qui lui survivra sera, sans nul doute, son envoûtante bande originale, soit l'ultime pied de nez à l'éviction de Carpenter du projet original.
Firestarter est en salle depuis le 1er juin, tout comme Clara Sola, qui nous emmène au Costa Rica, où une femme se libère des conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé sa vie.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2021, le premier long-métrage de Nathalie Alvarez-Messen, jeune cinéaste costaricaine, est avant tout le portrait subtil d'une madone, Clara Sola, vénérée dans son village pour ses étranges pouvoirs. Elle est capable d'aider les gens par de simples prières en implorant la Sainte Vierge. Ses incantations sont une bénédiction pour les autochtones, mais Clara supporte de moins en moins sa condition. À 40 ans, elle vit encore sous la domination de son entourage, en particulier sa grand-mère, qui l'oblige notamment, avant de se coucher, à tremper ses doigts dans du piment. Alors pour quelle raison ? Eh bien pour l'empêcher de s'adonner au plaisir solitaire. Dans une contrée étouffée par le patriarcat et la morale religieuse, on n'est jamais assez prudent. Clara ressemble à une petite fille, toujours craintive, sur sa défensive. Elle est voûtée, dégage une étrange animalité, conséquence d'une éducation plongée dans l'obscurantisme. Cet empêchement de devenir une femme s'explique par son don et une crainte réelle de ses proches. Si elle se transforme, s'épanouit sexuellement, sans doute que ses pouvoirs disparaîtront. D'autant que l'arrivée d'un jeune homme bouleverse les habitudes de la jeune femme en harmonie avec la nature, observatrice de tout ce qui l'entoure, en communion permanente mais coupée de ses semblables, communiquant difficilement. Mais la fébrilité du corps et de l'esprit, l'envie de se rapprocher de cet homme n'est que le début d'un épanouissement. La sainteté serait-elle incompatible avec le désir charnel ? En tout cas, la réalisatrice affirme le contraire avec son insolite conte féministe où Clara Sola pourrait être bien la petite sœur éloignée de Carrie. La référence au film de Brian De Palma n'a rien de fortuite. Elle est même parfaitement conscientisée à l'intérieur d'un récit qui en reprend, alors version film d'auteur à l'esthétique beaucoup moins flamboyante, les grandes lignes jusqu'au bal final. C'est un anniversaire, mais ça ressemble vraiment à un bal, intégrant un événement dramatique à teneur quasi fantastique, ou alors le hasard fait bien les choses. Le fantastique, présent de la première à la dernière image, se diffuse sous la forme du réalisme magique, dans la grande tradition de la littérature sud-américaine, et de plus en plus présente au cinéma, notamment dans les très beaux Los Silencios ou La Fièvre, tous deux d'ailleurs des films réalisés par des femmes venues respectivement du Brésil et de la Colombie. Le surnaturel n'est jamais explicite, toujours suggéré par des plans envoûtants, laissant une part de mystère. D'ailleurs, Nathalie Alvarez-Messen critique fortement le poids répressif de la religion et de ses coutumes, mais ne s'en prend pas à la croyance. Rien n'indique son scepticisme concernant les talents réels ou non de la guérisseuse. Vu la vénération dont Clara fait l'objet, sans rien demander en contrepartie, il est permis d'affirmer qu'il n'y a aucune escroquerie. Dénué de colère et de cynisme, le regard humaniste de la cinéaste, toujours attentive à ses personnages, très à l'aise lorsqu'il faut filmer les visages, transperce à l'écran dans ce beau film, finement écrit et interprété par des acteurs remarquables. Alors évidemment, Wendy Chinchilla Araya, qui incarne Clara, cette femme enfant qui parle à sa jument, aux insectes et à la nature, est absolument magnifique. Elle apporte une densité à son personnage uniquement par des jeux de regard très expressifs et sa façon d'utiliser son corps. Malgré un rythme parfois alangui, parfois à la limite de la complaisance, ne ratez pas cette jolie fable, mélange d'onirisme et de naturalisme, sur l'épanouissement d'une femme dans un monde façonné par les hommes, où la chenille finit par se métamorphoser en papillon, à l'image de sa très belle conclusion.
Clara Sola est en salle depuis le 1er juin.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
La semaine prochaine, Manu, tu auras deux films et qui n'ont rien à voir ensemble.
Oui, une reprise événement, La Maman et la Putain, film qui a été pas vu par personne pendant presque 50 ans, 60 ans, et puis La Ruche.
Guillaume nous parlera de Jurassic World, le monde d'après, et puis pour le reste, bien, c'est une surprise. À la semaine prochaine.